Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Dan Poncet. Bonjour Dan.
Bonjour Patrick, bonjour aussi Gisèle.
Peintre de talent et peintre de talent avec laquelle nous allons à la rencontre pour une seconde ou même troisième fois, que sais-je, avec Jean Cocteau. Et Jean Cocteau qui nous amène aujourd'hui au bord de la Méditerranée, au bord de la Méditerranée, Mare Nostrum. Et donc, nous allons tout de suite partir sans attendre en direction de Menton, cette ville qu'il découvrit et qu'il adora. Autre ville aussi comme Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et puis, on va retrouver aussi l'amitié avec une certaine Francine Weisweiler, un maire de Cocteau, qui est tout à fait un fan de ce peintre, Monsieur Francis Palmero, et qui lui demandera finalement de décorer à Menton la salle des mariages et autres nouveaux musées, à partir par exemple d'un ancien fortin que l'on trouvait dans la baie de Menton.
Le bastion
du XVIIe siècle exactement. Alors, Dan, pour vous, Cocteau est quelqu'un de très important. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur Cocteau, même Jean Marais, le monde de Cocteau. Et aujourd'hui, nous allons en Méditerranée avec les influences grecques, italiennes et espagnoles. C'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Alors, vous êtes notre merveilleux guide ce matin. Nous vous suivons.
Alors donc, je vais vous parler de Jean Cocteau, cette période heureuse de Jean Cocteau, donc sa période méditerranéenne. Donc, je vais vous traiter de 1949 à 1963, c'est date de son décès.
Il a vécu les plus belles années, là.
Donc, c'est une période très heureuse. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, même dans cette période qui est assez courte. Donc, je ne vais pas vous parler de Cocteau, le poète, le littéraire que beaucoup de gens connaissent, mais je vais vous parler de Cocteau,
oui,
l'artiste peintre.
L'artiste, le méditerranéen,
exactement.
Peut-être aussi, voilà.
Et donc, on voit cet artiste qui est aux multiples facettes, puisqu'il y a je vais vous parler des céramiques de Cocteau. Peu de personnes actuellement connaissent les céramiques de Cocteau. Il a fait des tapisseries à Aubusson.
Des vitraux.
Donc, je vais vous parler un petit peu de cette période effervescente.
C'est bien, voilà.
Et donc, le schéma, ça va être sa rencontre avec Francine Weisweiler, qui va déclencher toute cette période méditerranéenne où il va rester à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je vais vous parler donc de la villa Santo-Sospir, qui est la villa de Francine Weisweiler, qui va donc le recevoir pendant plus de 10 années.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Je vais vous parler de son travail, parce que c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Donc, les tatouages de la villa Santo-Sospir,
oui,
qu'il appelle tatouage.
Tatouage, pourquoi on appelle ça tatouage? Parce qu'on a fixé ça dit voir.
Donc, cette jolie phrase que je vais essayer de retrouver de Cocteau, si j'y arrive tout de suite, mais peut-être Gisèle va m'aider.
On n'habille pas les murs, les...
Alors, tenez, je le retrouve.
Oh, oui.
Alors, le texte de Cocteau, il ne fallait pas habiller les murs, il fallait dessiner sur leur peau. C'est pourquoi j'ai traité les fresques linéairement avec le peu de couleurs qui rehaussent les tatouages.
C'est ça, c'est pour ça qu'on l'appelle la villa tatouée.
La villa tatouée.
C'est ça, oui. Enfin, il n'a pas fait que tatouer, la villa. Là, il a commencé par faire sur une cheminée.
Il a fait la tête d'Apollon sur une cheminée.
Avec un soleil, je crois.
Un soleil, et après, il a investi toute la maison.
C'est ça, voilà.
Avec la bénédiction de Francine, évidemment.
Oui, oui, oui.
Francine Weisweiler. Et puis, je vais vous parler aussi de cette période créative, parce qu'il a fait quand même trois très gros chantiers. Il a fait la chapelle de Villefranche-sur-Mer,
oui,
que beaucoup de gens déjà ont visité.
Oui.
La salle des mariages de la mairie de Menton. Le Cap d'Ail, qui est peu connu.
C'est vrai.
Que
je
n'ai pas eu la chance de visiter, parce que c'est difficile de le visiter. Je vais vous parler aussi, en 1957, donc, de sa période céramique et sa rencontre avec les potiers Madeleine Joly.
Oui.
Donc, et sa créativité intense de céramique. Et je vais vous parler, évidemment, du musée, comme Patrick en parlait, du musée Cocteau, le Bastion.
Ah, oui, puis après, il a été agrandi, le bastion, parce qu'il a fallu rapatrier toute la collection du Belge.
Ah, de Séverin Winderman, mais ça, c'est encore une autre phase, parce que ça, c'est un deuxième musée.
C'est plus dans le même musée, en fait.
Non, voilà. c'est un très grand musée.
C'est toujours là-bas, c'est toujours... voilà, c'est ça, en fait. Oui.
Et autrement, donc, on va terminer par son film, son dernier film, qui est le testament d'Orphée, oui. Et qui en réalité c'est un peu son
testament à lui.
Voilà. Tout un programme.
Alors donc.
On commence par la
première station.
Donc oui. Déjà il faut situer
oui.
Jean Cocteau.
Tout à fait.
De toute façon on est obligé de dire actuellement
bien
que
sûr.
C'était un homosexuel.
Oui.
Donc il a eu une vie sexuelle aussi avec. Il recherchait la beauté parce que tous ses amants étaient très beaux. Donc moi je vais vous parler. De sa période où il a quitté Jean Marais, où ils se sont quittés. Et donc, il a connu Édouard Hermite. Donc, pour situer par rapport à Patrick qui aime les dates un petit peu fixes.
Ce sont des repères. C'est utile.
Donc, Cocteau, il est né le 5 juillet 1889 à Maison Lafitte. Et il est décédé le 11 octobre 1963 à Milly-la-Forêt. Donc on parle actuellement de la période 59 à 63.
Voilà.
Il a connu Jean Marais. Donc Jean Marais est né en 1913 à Cherbourg. Il est décédé à Cannes le 8 novembre 1998. Et ils se sont rencontrés avec Jean Marais en 1937. Donc Cocteau avait 48 ans et Jean Marais avait 24 ans.
Il était très jeune, oui.
Jean Marais s'émancipe un peu de Cocteau en 1948. Là, il y a une période transitoire où Cocteau rencontre Édouard Hermite.
Qui va adopter, d'ailleurs.
Qui va adopter, mais en réalité, c'est quand même son compagnon.
Mais bien sûr,
voilà,
en fait, au final, il l'a adopté.
C'est son fils. Oui, c'est son fils adoptif. Voilà. Et donc, à la fin de sa vie, c'est Édouard Hermite qui va hériter de toute l'œuvre de Cocteau.
Oui, c'est ça. Oui.
Et une petite parenthèse, Édouard Hermite a respecté l'œuvre de Cocteau et toute sa vie a essayé de...
Oui, parce que même quand il est décédé, il avait des projets et il les a menés jusqu'au bout. Hermite les a menés jusqu'au bout en suivant scrupuleusement les dessins, enfin, la trame que Cocteau avait initiée.
Exactement.
Et il a vraiment été fidèle à la pensée de Cocteau.
Donc là, on dérive un petit peu, mais en parlant d'Édouard Hermite, à son décès, après le décès de Cocteau, il s'est marié, il a eu deux enfants. Mais quand Édouard Hermite, il est décédé, donc il est décédé avant Cocteau, il est décédé en 1995. Édouard Hermite est décédé en 1995. Jean Marais est décédé en 1998 et Cocteau en 1963.
Voilà.
Édouard Hermite, à son décès, a demandé à reposer avec Jean Cocteau à la chapelle de Milly-la-Forêt.
Qui appartient, voilà. C'est ça,
C'est une parenthèse. Ouais. Donc, je vais vous parler maintenant de cette période méditerranéenne donc, où Jean Cocteau rencontre Francine Weisweiller. Donc, Francine Weisweiller est est d'origine juive.
C'est une riche héritière, aussi. Ses parents étaient joailliers, des joailliers français au Brésil.
C'est possible.
Elle s'est mariée avec Weisweiller, qui lui était l'héritier de Chelles.
Très bien.
Donc,
Francine, son mari, c'est Alec Weisweiller, qui est banquier donc, à Paris. Et donc, pendant la guerre, il lui a promis, s'il s'en sortait, puisqu'ils étaient juifs.
Qu'il lui
offrirait la villa de Céret.
Voilà.
Donc, ils s'en sont sortis. La mère de Alec n'a pas voulu quitter Cannes. Elle a été prise par les Allemands, a été déportée. Ouais. Et donc, il lui offre cette villa, la villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est la villa Santo-Sospir, donc qui est en hauteur, qui est vue sur la mer, un très joli endroit. Et Francine Weisweiller, elle a comme cousine une personne qui joue dans le film de Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Qui s'appelle, son nom d'artiste, elle s'appelle Nicole Stéphane.
C'est ça, voilà.
Et de son vrai nom, elle s'appelle Nicole de Rothschild, et qui est donc la cousine d'Alec Weisweiller.
Voilà.
Donc le mari de Francine.
Et comme Francine tenait salon à Paris,
oui,
et qu'elle recevait beaucoup d'artistes, sa cousine, enfin la cousine du mari de Francine, a invité Cocteau à siéger dans le salon de Francine. C'est comme ça qu'ils se sont connus.
C'est exact,
et
oui.
Et tout de suite, ça a été une amitié formidable.
Un coup de foudre.
Un coup de foudre.
Coup de foudre d'amitié, oui. Et donc, là, Cocteau venait d'enchaîner plusieurs films. Donc, le dernier, c'était donc, Les Enfants Terribles, qui était tourné avec Jean-Pierre Melville.
Oui, puis il était triste parce que ça ne se passait pas comme il voulait. Ce n'est pas lui qui l'a fait, le film, hein. C'est Melville.
Oui, c'est
Mais
Jean-Pierre
ça
ne
correspondait
Melville.
Pas à son... Parce que c'était d'après son livre. Et il était pas très bien. Donc, c'est pour ça que Francine lui a dit, eh ben, vous allez venir passer quelques jours chez moi de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Oui, il était très fatigué, Cocteau. Oui, donc, oui. Elle lui a dit, bah, écoutez, si vous voulez venir vous reposer quelques jours à la Villa
oui.
Santos-Hospice.
D'ailleurs, il dit, je devais passer un week-end et je suis restée 12 ans.
C'est ça, c'est exact.
En fait, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui. Il dit, je devais passer une semaine... Je suis restée 12 ans, avec quelques voyages entre, mais bon, c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré là-bas.
2 ans ou 12 ans ?
12 ans.
12 ans ?
12 ans, jusqu'à une année avant son décès.
C'est ça,
où là,
ouais.
Il y a eu une brouille avec Francine. Donc, cette maison, elle était assez récente.
Mmh.
Donc,
il y avait... Le 36, je crois.
Oui.
C'est une villa, c'est ça.
C'est oui,
une
c'est
belle
ça.
Villa.
Oh, c'est une... Plus qu'une villa,
une belle propriété.
Une belle demeure.
Une belle demeure.
Voilà.
Donc les murs étaient vides, il n'y avait rien, il n'y avait pas de tableau.
Oui.
Et...
Comme maintenant, quoi. C'est souvent le cas maintenant.
Oui, mais à cette époque, donc Francine n'avait pas encore fait la décoration.
C'est ça, c'est dommage.
Et donc Cocteau demande à Francine s'il peut décorer les murs. Il n'appelait pas encore ça les tatouages. Donc Francine était d'accord. Donc il a commencé comme Gisèle vient de nous le dire, par le salon où il a décoré
sur
la cheminée la tête d'Apollon avec d'autres personnages de la Méditerranée où on voit les pêcheurs, on voit la fougasse méditerranéenne. Et petit à petit, bah, il tatoue toute la maison.
C'est-à-dire il peint en réalité.
Il peint, c'est-à-dire il peint...
Avec des arabesques, des...
Mais pour lui, c'est vraiment une résidence créative.
Il peint à main nue.
C'est ça.
Ah, c'est important.
Déjà, c'est important parce que à la chapelle de Villefranche-sur-Mer, il n'a pas cette technique, il a une technique de projection.
C'est
donc
ça.
Avec
dessin.
Le doigt, à main nue, quoi.
Voilà.
Sans pinceau, sans
si,
rien.
Si, avec des pinceaux. Mais quand on dit à main nue, ça veut dire qu'il ne travaille pas avec des calques ou des choses comme
voilà.
ça.
D'accord.
Et il travaille avec un ouvrier qui lui fait la...
C'est à tempéra.
Qui le prépare à la tempéra.
À tempéra, donc voilà. C'est une peinture qui est bizarre, parce que justement cet ouvrier italien qui fait avec les couleurs, qui mélange avec le blanc d'œuf, et c'est ça qu'on appelle à tempéra.
C'est ça, c'est exact, oui.
C'est ce qu'il enduit, en fait. Ça change les couleurs.
C'est des couleurs qui sont pastels.
C'est ça.
Et qui tiennent... par rapport au temps,
voilà.
Qui ne change pas, qui
voilà.
change pas de nuance.
Qui n'évolue pas.
Non. Donc, il se promène dans cette villa et il tatoue tous les murs, les chambres. Il fait des fresques à l'extérieur. On voit à l'entrée Mercure sur son char, parce qu'il est quand même très influencé par l'Antiquité.
C'est ça, oui.
Oui. La Grèce, par exemple.
Oui, oui.
Et Rome
oui.
aussi.
On voit Orphée et sa lyre.
Voilà.
Et on parle de... À l'entrée, il écrit Santo Sospir, ou Saint Soupir.
Saint Soupir,
voilà.
Oui.
Donc, à l'époque, sur les cartes du XIIe siècle, le Cap Ferrat s'appelait le Cap Saint Soupir.
Ah oui.
Donc, dans l'antichambre, il y a un dessin d'un dormeur. Parce que c'est la Méditerranée. Il représente donc toujours aussi Dioscure. Dans le salon, donc, il a aussi tatoué avec des feuilles la cheminée. Alors donc, on voit le mythe du soleil, la tête d'Apollon. De chaque côté, on trouve les prêtres du soleil ou les pêcheurs de Villefranche. C'est les pêcheurs de Villefranche qui sont représentés.
Oui.
Avec le chapeau des pêcheurs de Villefranche. On trouve aussi la dormeuse aux oursins, donc il y a toujours le thème méditerranéen. Ouais, ouais. On revient aussi avec le mythe de la lune. Donc il y a un pêcheur assis qui est endormi, qui fait face à une licorne. Il y a beaucoup de licornes dans l'œuvre de Cocteau. Et dans ces salons, il y a des céramiques qui ont déjà été réalisées par Cocteau. Non, qui n'ont pas encore été réalisées par Cocteau, mais si vous pouviez visiter la Villa Santos Hospire, il y a des céramiques qui sont dans toutes les pièces.
D'accord.
Voilà. Alors, donc, il y a une pièce qui n'a pas été tatouée par Cocteau, c'est la salle à manger. Et là, il a offert à Francine Weisweiller une grande tapisserie qui s'appelle « Judith et Holoferne ». Qui représente quelque chose, il faut connaître l'Antiquité.
Judith qui décapite.
C'est ça, Judith.
Qui décapite, oui, une très grande tapisserie. Et pour l'anecdote, Francine n'aimait pas les rideaux. Donc il n'y a pas de rideaux dans sa maison. Donc ça veut dire que cette tapisserie, elle a subi les assauts du soleil et les assauts de la lune. Oui. Donc elle a perdu toutes ses couleurs. Cette grande tapisserie.
Ah oui.
Oui. Donc il y a les paroles de Cocteau pour étant donné que je peux pas montrer la tapisserie expliquer cette tapisserie.
Oui, expliquer.
Alors paroles de Cocteau. Donc il explique la tapisserie. Judith fait son coup. Elle n'est plus une femme. Elle est un sarcophage en marche, dépositaire de son histoire. Elle porte la tête de sa victime et traverse au clair de lune des groupes de gardes endormis par la servante. La servante, pareille à quelque insecte, est encore éclairée par la chambre où a eu lieu la décollation. Bon, c'est une tapisserie qui est quand même...
Macabre.
Macabre, voilà. Donc cette belle tapisserie a été réalisée au Buisson, comme beaucoup de tapisseries que Cocteau a fait les cartons. Parce qu'une tapisserie, il faut expliquer que de toute façon, ce n'est pas Cocteau qui...
Qui pouvait le faire, mais non, il faut des petites mains pour faire ça.
Voilà. Ah, oui. Donc, Cocteau a fait un carton,
c'est-à-dire un dessin, voilà.
Grandeur nature. Donc, la tapisserie fait au moins, je crois, 3 mètres de long. Donc, il a fait un très grand dessin au pastel. Et donc, ce dessin va à Aubusson. Et là, ils refont la tapisserie. Donc, cette tapisserie, elle a été reproduite à 3 exemplaires. Une qui est dans la Villa Santos Hospire, une qui est au musée du Bastion, dont on a parlé, et une après qui a été réalisée, qui a été commandée par Séverin Vindermann, le mécène et l'amoureux de l'œuvre de Cocteau.
C'est ça.
Qu'il a commandé. Donc on voit toutes aussi les couleurs différentes, parce que celle qui est à la Villa Saint-Jean-Cap-Ferrat, elle n'a plus de couleurs.
Ouais, c'est ça.
Celle qui est au musée de Menton était donc dans l'entrée, donc elle a gardé quand même ses couleurs. Et la nouvelle qui est donc est exposée au musée. Le nouveau musée de Menton,
musée Séverin Cocteau, Vindermann. Qu'on appelle le musée Cocteau.
Donc là, on voit des couleurs qui sont intenses. Ouais. Dans l'escalier, donc évidemment, on pénètre dans la maison. Donc là, il a fait le génie du sommeil, qui tient dans sa main une fleur d'hibiscus. Donc on se promène dans la maison.
Oui.
Dans la chambre de Diane. Donc c'est la chambre de Diane, c'est la chambre de Francine. On voit Actéon qui va être changé en cerf sous l'œil de Diane et de ses nymphes. On voit un berger qui assiste à cette scène avec indifférence. On voit des Dianes presque nues qui vont prendre leur bain. Alors dans la chambre des sages, c'est la chambre des boucs. C'est une toute petite chambre. Que Cocteau a donc...
Il avait adopté cette chambre, lui.
Oui, qui était minuscule, mais il voulait cette petite chambre. Ouais. Et donc, c'est la plus petite pièce de la maison, mais il s'y plaisait. Et donc, il a fait dans cette chambre une belle peinture. On voit le chèvre-pied qui tient dans sa main la fougasse, toujours, qui représente le pain de Biote, de Grasse, d'Antibes. Et on voit la licorne. Il y a une autre licorne aussi qui est derrière le chèvre-pied. Après, donc, on passe dans la chambre de son fils adoptif et amant, Édouard d'Hermite, qui est beaucoup plus... Cette chambre est beaucoup plus spacieuse. Donc, on voit le profil de la nymphe Écho, qui répète le nom de Narcisse. Et on voit Narcisse au nénuphar qui se mire dans l'eau.
Oui, bien sûr.
Après, il y a la chambre des Bacchantes, qui fut la chambre durant de nombreuses années de Carole Weisweiller. Donc, Carole Weisweiller est la fille unique de Francine.
Francine, oui.
De toute façon, c'est bien de... Les gens qui n'ont pas eu la chance de visiter cette villa, c'est bien d'expliquer un petit peu le déroulement, parce que cette villa a été achetée il y a quelques années par un Russe,
oui.
Donc, qui avait le projet de la restaurer, donc elle est restaurée, de la faire visiter. Donc maintenant, avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, je ne sais pas
ce
que cette villa va devenir.
Ouais. Il faut peut-être se dépêcher d'aller voir, c'est aller sur un site internet. Si
oui, sur un site, il y a encore beaucoup de choses.
Oui,
parce que Cocteau a fait des films d'époque.
On peut retrouver,
Oui,
mais maintenant, avec Internet, on trouve tout. Voilà, c'est ça. On voit toutes les fresques, on voit les... Non, c'est bien.
Ouais. Alors moi, j'ai eu la chance à l'époque de visiter cette villa. Et il y avait le gardien des lieux, qui était donc l'ancien infirmier de Francine. Parce que Francine est décédée, Francine Weisweiller.
Elle est décédée là-bas.
Est décédée dans la villa. Et donc lui, ça a été son...
Son infirmier.
Son infirmier. Ouais. Et après, au décès de Francine, il est devenu le gardien des lieux.
Ah oui.
Donc à la limite, quand vous aviez eu la chance, il faisait visiter cette belle villa, donc la villa Santo-Sospir, par groupe de 10. Et donc, lui, c'était la mémoire de la villa.
Ça, voilà.
Donc, il racontait toutes les histoires.
Oui.
Et je me souviens qu'on a eu la chance, on a pu boire l'apéritif sur la petite terrasse où Cocteau, Édouard Hermite, tous les amis, Francine, buvaient l'apéritif.
Mmh.
C'était des moments assez extraordinaires. Donc, pour l'historique, ce que je viens un peu de vous expliquer, c'est que la villa Santo-Sospir, elle a été vendue en été 2016, donc à un oligarque russe.
C'est ça.
Qui s'est présenté comme un amoureux de Cocteau. Son nom est Elia Melia et il souhaitait faire restaurer la villa sans en détruire l'esprit. Donc les travaux ont commencé en 2018, donc je pense que c'est terminé.
Bah peut-être oui.
Il y a eu le Covid entre-temps.
Et puis maintenant, l'Ukraine, voilà.
Vous trouvez que c'est intéressant de parler de Carole Weisweiller, sa fille unique
En deux mots.
Prolongeons.
Oui.
Alors donc, elle a écrit un livre, donc Carole Weisweiller, et dans ce livre, elle dit ses textes. Après la mort de Jean Cocteau en 1963, je m'étais juré que je protégerais durant toute ma vie et au-delà cette demeure où le poète n'avait pas seulement tatoué les murs de fresques, mais où il avait mis toute son âme et son cœur.
Parce qu'elle était imprégnée, en fait. Ouais.
Mais à la mort de ma mère, en 2003, j'appris qu'elle avait légué par testament 50% de la maison à un vague petit cousin qui avait tout fait pour la séduire. 2 ans après maman, ce fut mon père qui nous quitta. Jusqu'à sa mort, il avait toujours tout payé. Je me suis alors trouvée confrontée aux frais très lourds de la villa Santo-Sospir, puis ensuite au paiement des droits de succession. Et étant donné leur montant, je n'ai eu d'autre solution que de m'en séparer. J'avais créé peu après le départ de mes parents une association des amis de la villa Santo-Sospir afin que l'œuvre du poète soit visitée comme un musée par petits groupes. J'ai eu cette chance de la visiter.
Oui, c'est ça, oui.
Toutes les personnes qui sont venues à la villa ont été conquises par le charme et la beauté de Santo-Sospir. Peu après le décès de ma mère, la maison avait été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle aurait dû en principe être reprise par le Conservatoire du Littoral, qui avait déjà sur cette même Côte d'Azur réussi à protéger la villa d'Hélène Gray. Malheureusement, les directeurs changeant et le budget des affaires culturelles diminuant, j'ai été contrainte de vendre Santo-Sospir à un particulier. Voilà.
Oui.
Bien, nous allons prolonger en musique, si vous le voulez bien, cette découverte de cette
villa,
demeure ou propriété, avec Ravel qui va nous servir de guide. Thank you. Eh bien, avec Dan Poncet, merci Ravel pour cette visite. Nous poursuivons notre petit pèlerinage à la rencontre de Jean Cocteau.
Et la Méditerranée.
Et de la Méditerranée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Menton, que sais-je, la Grande Bleue.
Donc, on va parler maintenant peut-être des trois grands projets de Cocteau.
Et bien sûr.
Donc, la chapelle de Villefranche, la mairie de Menton. La mairie de Menton, la salle des mariages, oui. Et le Cap d'Aille.
Cap d'Aille, voilà.
Donc, la chapelle de Villefranche, donc, ses travaux, c'est en 1956-1957. Donc, c'est une chapelle qui était prise à l'époque, servait au mariage princier. Et depuis plus d'un siècle, elle était devenue un entrepôt pour des pêcheurs.
Oui.
Et donc, Cocteau, il rêvait de réhabiliter cette chapelle.
Très bien.
Donc, il a fallu quand même 5 ans de discussion avec les pêcheurs.
Ah oui.
Qu'ils acceptent de retirer leur filet.
Et oui, ça prend du temps. C'était
pas facile. Quand même, Jean Cocteau était homosexuel. Il était fumeur d'opium. Donc, la discussion était quand même un petit peu compliquée
Houleuse.
Avec les pêcheurs.
Houleuse, voilà. Oui.
Il y avait du vent en mer.
Donc, ce Cocteau, il a l'autorisation de faire ce projet. Et il travaille différemment dans cette salle des mariages, contrairement à la Villa Santo-Sospir où il dessine directement sur les murs. Là, il fait des dessins et il projette avec cette lanterne magique. Donc, c'est une projection. Et là, il dessine différemment.
Donc, il y a quand même des peintures murales.
Oui, donc il y a Saint-Pierre qui marche sur les eaux, qui est soutenu par un ange.
Mais le point d'orgue, c'est quand même les portraits d'amoureux éternels qui sont là-bas.
Les mourants.
Dans la salle des mariages.
On est à la chapelle, là.
Ah, pardon.
On est à la chapelle.
À la chapelle, il y a plutôt des poissons. Il y a des pêcheurs et des poissons.
C'est pareil. Non.
Des filets, on est à la chapelle.
Voilà, donc, à la chapelle, donc il y a des pêcheurs et des poissons. Il y a des poissons qui s'étonnent du miracle, en plus, vous voyez.
Ils
sont très étonnés.
Oui.
Il y a aussi un hommage aux demoiselles de Villefranche.
Ah, oui.
Et donc, il y a aussi un hommage aux gitans de Sainte-Marie de la Mer.
Et oui, bien sûr, c'est la tradition.
Et donc là, il représente Carole Weisweiler, qui est la fille de Francine.
Oui, c'est ça.
On la voit avec un foulard qui est intégré dans la fresque. Et les paroles de Cocteau, il dit « Comme jadis, les princes commandaient un concerto ou un quatuor, j'ai fait le portrait de Mademoiselle Weisweiler, regardant devant une roulotte, puisque Madame Weisweiler m'a tout le temps soutenu par son amitié et sa gentillesse. »
La reconnaissance.
Donc, cette réhabilitation, elle a duré quelques années. Elle dura 2 ans. Et donc, à cette époque, on connaît aussi, peut-être il y a des gens qui suivent Cocteau, connaissent l'hôtel Welcome, à côté de la chapelle, où il y a aussi des œuvres de Cocteau. Donc, il a résidé pendant 2 ans dans cet hôtel. Ensuite, on va parler de la mairie de Menton. Donc, les premières études, elles datent de 1956. Et l'inauguration, elle a été réalisée, enfin, elle a été faite en 1958. Donc, aussi, 2 ans d'exécution. Alors, tout se passe à peu près à la même époque. Alors, donc, à l'époque où il est en train de faire la chapelle de Villefranche, il vient seulement de recevoir donc l'autorisation de faire la chapelle de Villefranche. Et le maire de Menton, donc vous avez parlé, monsieur Francis Palmero,
voilà,
veut lui montrer la nouvelle salle des mariages pour lui confier la décoration des murs.
Très bien.
Et Cocteau y relève le défi.
Parfait.
Donc les premières études sont réalisées en 1956.
57, ça commence en... Ah, c'est 57-58.
C'est les études, 1956.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Et là, ça change complètement parce que le thème, il s'inspire, Cocteau, de boucliers, de tambours et de masques africains pour ses dessins de volutes.
C'est plus des scènes bibliques, là.
Voilà. C'est ainsi qu'il remplaça les taches de couleur par un méandre anatomique, sorte de labyrinthe linéaire, habillant cette salle des mariages dans le style des palais de Crète.
Ah oui.
Alors, toute cette salle est conçue par Cocteau. Les peintures murales, les portes, qui sont en pointe de diamant, les tapis qui sont style léopard et qui existent toujours.
Ils sont toujours là-bas.
Sont toujours là-bas.
C'est superbe.
Et les candélabres en bronze.
Voilà.
Alors donc, sur le mur du fond, donc où le maire
officie,
Il y a l'allégorie.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aux amoureux éternels.
Les
amoureux éternels, oui.
Alors, les portraits sont aussi dessinés avec un méandre de lignes. Donc, c'est une technique qui est complètement différente de ce qu'on avait, de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant de Cocteau. Donc, la femme est coiffée avec une capeline mentonnaise et l'homme, il porte le bonnet des pêcheurs méditerranéens. Il y a le bleu et le blanc qui représentent les couleurs du drapeau de Menton et les éclats jaunes et orangés du soleil font référence à la grande richesse de la noce. Donc, c'est une vision très légère et onirique. De l'autre côté, sur le grand panneau, il y a les noces qui se déroulent dans un village imaginaire, Méditerranée fantasmée. Alors, on veut montrer, Cocteau, il veut montrer que la négligence dans le mariage peut avoir de funestes effets.
Mon Dieu.
Donc,
après, on peut parler du musée de Menton, peut-être.
On va parler du musée de Menton.
Voilà.
Donc, le musée de Menton, c'est un bastion, comme Patrick l'a expliqué. Et donc, comme Jean Cocteau, si vous voulez, était quand même pris en charge par Francine Weisweiller, donc il lui apportait...
Les moyens étaient presque illimités, quand même.
Disons que Francine lui apportait les moyens.
C'est ça.
Donc, soutien logistique.
Donc, ce qu'il a fait, ça a toujours été gratuit.
Oui, c'est un échange, quand même.
Donc, le maire de Menton... lui propose de faire un musée dans ce bastion. Donc les travaux commencent...
En 66 aussi, non?
En 66?
Non, il était ouvert peut-être. Je ne me souviens plus.
Donc ils attaquent les travaux. Et Cocteau est obligé de faire un tri un peu dans ses collections. Et c'est là qu'il attaque le sujet des Inamorati.
Oui.
Donc c'est une série de pastels, une série de 18 pastels, qui représente un pêcheur mentonais qui est amoureux d'une jeune femme de la Riviera. Donc il offre ses pastels au futur musée du Bastion.
Oui.
Donc, il fait des fresques à l'entrée avec les galets qu'il ramasse sur la plage, les fresques qui s'appellent les cadales.
Mmh.
Il offre une grande tapisserie, donc la deuxième tapisserie que nous avons déjà vue chez Francine Weisweiller.
Dont on a parlé tout à l'heure, oui.
Et le musée de Menton donc, se termine, mais Cocteau... décédé. Donc il verra, il sera pas.
Il verra pas l'ouverture.
Verra pas l'inauguration.
Non, pas du tout. Oui. Mais après, ce musée va s'étoffer parce que c'est là.
Alors
que
donc
c'est
oui,
le grand collectionneur.
Donc là il va mettre aussi toutes ces céramiques. Il y a beaucoup de céramiques. Donc, à cette époque, Cocteau et Picasso se fréquentent beaucoup. Donc, l'œuvre de Cocteau est inspirée par l'œuvre de Picasso.
Bien sûr.
Et Picasso est inspiré par l'œuvre de Cocteau.
C'est pour ça des céramiques, en fait. Oui.
Donc, on revient à la série des Inamorati.
Oui, oui.
Donc, cette série de pastels. Donc, c'est une œuvre qui est assez particulière chez Cocteau, qui ne ressemble pas à la douceur
habituel.
Donc c'est beaucoup plus violent, il y a beaucoup plus de couleurs et c'est beaucoup plus
plus vif en fait
et cubiste.
Oui,
donc on voit l'influence de Picasso.
Mais oui.
Donc pour l'anecdote, Jean Marais n'aimait pas cette période. Souvent dans l'œuvre de Cocteau, il représente le lézard.
Alors, c'est quoi le lézard pour lui?
Alors, le lézard, c'est, ça représente la paresse méditerranéenne.
Ah, c'est tout à fait ça, voilà. C'est ça, oui.
Donc ce grand lézard aussi, on le retrouvera sur le parvis du nouveau musée Séverin Winderman.
Oui, parce qu'après, et puis oui. C'est nous, le nouveau musée Cocteau en plus.
Le nouveau musée Cocteau.
Oui, c'est ça. Et là, toute la collection de Séverin Winderman, il va tout parce qu'ils c'était aux États-Unis, je pense. Parce qu'il était un grand collectionneur qui vivait aux États-Unis.
Séverin Winderman.
Il était belge. Hein.
Était belge donc
il vivait aux États-Unis.
Il était juif, donc il a fui la montée du nazisme. Mmh. Son père lui a dit il faut que tu fasses un métier que tu puisses faire dans le monde entier. Donc il a été horloger.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Il était encore en Belgique. Son premier salaire, chez un antiquaire, il achète un dessin de Cocteau.
Et ça a commencé, la collection a commencé. Oui, oui.
Sa collection a commencé ainsi. Ensuite, il va aux États-Unis, il fait fortune avec donc l'horlogerie. Mmh. Et à l'époque, il rencontre Gucci. Et c'est lui qui crée avec Gucci
les montres.
Les montres, les premières montres bijoux.
Voilà, c'est ça.
Et donc, toute sa vie, Séverin Winderman collectionne des œuvres de Cocteau. Et il acquérit à peu près 1000 œuvres papier de Cocteau.
Oui.
Sa collection correspond à 1800 œuvres, mais il a 1000 œuvres de Cocteau. Et donc, le maire de Menton, monsieur
Palmero,
lui propose d'offrir ses collections. Mais, pour un nouveau musée. Mais Séverin Winderman veut en contrepartie qu'on lui fasse un musée qui puisse recevoir toutes ses œuvres au papier.
Ses œuvres, oui.
Et c'est là que donc naît le projet de ce grand musée de Menton qui a été réalisé par l'architecte Rudy Ricciotti, qui était donc aussi celui, l'architecte du musée de Marseille, du
MUCEM.
Voilà. Donc ce musée est magnifique. C'est un musée qui est aplati. Donc à la limite, il était sur l'ancien parking de Menton, il est à côté de la mer. Et il ne bouge pas la vue sur Menton. Donc, voilà. Donc on dirait une grande pieuvre blanche avec des bras. Et donc là, vous pouvez visiter ce musée et vous pouvez le visiter pendant 5 ans. Et vous ne verrez jamais les mêmes œuvres. Chaque année, ils changent les œuvres tellement la collection est importante. Donc actuellement, il y a eu une inondation. Il y a toujours des choses problématiques.
C'est ça le problème.
Et donc, actuellement, il n'est pas encore ouvert.
Et donc, en sortant, on a toujours la vue sur la mer. Oui. La mer, par exemple, celle de Charles Trenet. Merci.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Pour la vie.
Merci à Charles Trenet de nous avoir encore bercés, comme les flots, qui a sûrement aussi bercé Jean Cocteau. Alors, nous repartons à la rencontre de ce grand méditerranéen, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, dans son musée, il disait une chose qui est bien, parce qu'il disait « Je changerai mes œuvres dès qu'elles prendront un air d'habitude ». C'est bien ça.
Ah, c'est bien.
Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses.
Ah, mais oui. J'ai trouvé cette phrase qu'il a dite d'ailleurs au moment où son musée a été ouvert. Enfin, il pensait l'ouvrir en fait, c'est pas lui, voilà. Mais bon. Dans son idée, il pensait quand même changer les œuvres de temps en temps.
Oui, mais là, c'est une jolie parole ça pour. Je vais vous parler du Cap d'Ail.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que
oui.
Là, après cette chanson, je trouve...
C'est... Ah, c'est bien indiqué.
Oui, c'est bien indiqué. Donc, le Théâtre du Cap d'Ail, c'est son troisième grand projet. Mmh. Il a été donc réalisé par Cocteau entre 1958 et 1963. Donc, pour situer le Cap d'Ail, il est à côté de Monaco.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, il a été réalisé donc, après la guerre par M. Moreau, qui était le propriétaire des lieux, pour réunir la jeunesse franco-allemande.
Pour la réconciliation, voilà. En fait. Ouais.
Alors, ce théâtre, il a été construit dans un endroit merveilleux, avec une vue extraordinaire sur la mer. C'est un écrin naturel qui est superbe, il y a des pins majestueux, et il y a évidemment ce ciel et cette mer. Donc, Jean Moreau, en 1957, il est fondateur et directeur du Centre méditerranéen du Cap d'Ail et il invite Cocteau à assister à une représentation de Garcia Lorca qui est donnée par des étudiants internationaux. Et Cocteau voit l'amphithéâtre et il dit ses paroles, il faudrait y faire un décor de théâtre grec.
C'est ça, voilà.
Donc Cocteau est séduit par ce site et M. Moreau va convaincre donc Cocteau de s'occuper des travaux qui vont être réalisés pendant de nombreuses années, puisque de toute façon, ça se terminera en 63.
À sa mort, oui.
Et Cocteau, il deviendra un des fondateurs spirituels de ce centre. Mmh. Il va venir travailler et enseigner jusqu'à sa disparition, donc en 63. Donc, les paroles de Cocteau, à Cap d'Ail, j'ai voulu pour la jeunesse écrire sur le ciel et sur l'eau. Et donc, actuellement, ce théâtre, il a gardé ce rôle de théâtre transfrontalier, qui permet donc à des jeunes gens qui sont venus des rives de la Méditerranée de présenter des scènes d'un mythe antique de leur choix et en y intégrant des passages dans une autre langue que le français, l'italien, le grec, l'espagnol. Donc ça, il fallait en parler du Cap d'Ail.
Ah oui,
parce que... Ceux qui ont la chance de pouvoir visiter cet endroit. Il faut que je vous parle aussi très rapidement, parce que le temps passe, de sa période... céramique.
Oui, oui, oui.
Donc, il rencontre les potiers Madeleine Joly en 1957. Ceux-ci viennent se présenter à la Villa Santo-Sospire. Ils viennent de copier un dessin de Cocteau sur une céramique et ils veulent le montrer à Cocteau. Cocteau trouve ça merveilleux, mais il ne veut pas qu'on copie ses œuvres. Il veut être céramiste.
Instigateur lui-même.
Instigateur.
Ouais, ouais.
Et là, commence une grande collaboration avec ces potiers qui se mettent à l'écoute de son art. Donc Cocteau commence à dessiner avec des crayons de pastel sur ses céramiques. Évidemment, quand ça passe au four,
c'est
ça
plus
disparaît.
Possible. Bah oui.
Donc les potiers lui créent des crayons avec des oxydes et il peut comme ça dessiner.
Ça peut perdurer à la cuisson,
donc,
en fait.
Voilà, il trouve une technique qui est très particulière, qui n'avait pas encore existé, parce que même les œuvres de Picasso, ce sont des céramiques qui sont émaillées,
oui,
et qui ne risquent rien. Tandis que là, c'est, on revient à l'histoire du tatouage.
Ah oui,
Il tatoue de nouveau, et c'est les assiettes. Donc cette collaboration va durer jusqu'à son décès en 1963. Il crée 300 modèles différents. Il a une créativité extraordinaire. Il va travailler toutes les après-midi. Donc c'est en dessus de Villefranche-sur-Mer. Et pour vous donner une comparaison, les céramiques de Cocteau, les plus grands tirages sont faits à 50 exemplaires. Il y en a qui sont faits à 15, à 10, même à 5 exemplaires et des pièces uniques. Et sachant que Picasso, qui à la même époque travaillait chez Madura, lui faisait des tirages à 500 exemplaires.
Voilà.
Donc ces céramiques ont été ont peu intéressé le public à l'époque, sont restées dans l'oubli jusqu'en dans les années 1980. Il y a eu une exposition à Paris qui a un peu relancé ces céramiques et maintenant
ça devient absolument à la mode maintenant.
Maintenant, il y a 3-4 ans, il y a Christie à Londres qui passe régulièrement des assiettes de Cocteau et maintenant les cotes sont très importantes.
Bien sûr.
Donc, il faut vous parler aussi du testament. Donc, c'est son dernier film. C'est un petit peu... Donc, le testament d'Orphée. Donc, Cocteau, à cette époque, il a 70 ans. Et même avec sa notoriété, il lutte pendant 3 années... pour récupérer l'argent nécessaire à faire
le film. Pour faire le film,
voilà.
Oui.
Donc évidemment, il incite aussi ses mécènes pour l'argent. Donc incite évidemment Alec Weisweiller,
oui,
qui jusqu'à maintenant a toujours financé. Et il a fait une pause quand même de 10 années avec le cinéma. Donc le testament d'Orphée, il l'attaque en 1959. Alors comme son titre l'annonce, ce sera... son ultime œuvre, et en même temps, ça va être un projet énorme, mais ce projet énorme ne va pas intéresser tellement les producteurs.
Ouais.
Donc, ce qui est merveilleux, c'est que c'est son directeur technique qui était Claude Pinoteau, qui fait du porte-à-porte pour trouver l'argent. Alors, Jean Tullier consentit à assurer la production, mais il manquait toujours de l'argent.
Et oui.
Alors Cocteau, il demande à Francine Weisweiller, il demande à Yul Brynner, à François Truffaut. Et pour l'anecdote, le dernier film que fait François Truffaut, qui est Les 400 coups, avec Jean-Pierre Léaud, les bénéfices de ce film à l'étranger vont être donnés
pour le
film de Cocteau.
Cocteau, voilà, c'est ça.
En plus, tous ses amis tournent gracieusement. Donc, je vais énumérer tous ces artistes qui tournent gracieusement. Il y a donc Édouard Hermite. Donc, Édouard Hermite, Doudou, c'est son
fils.
Ami et son fils adoptif. Henri Crémieux, il y a Jean Marais, il y a Yul Brynner, il y a Jean-Pierre Léaud, Nicole Courcel, Claudine Auger, Francine Weisweiller, François Perrier, Maria Cazares, Picasso, avec Jacqueline Picasso, Luis Miguel Dominguez, Charles Aznavour et des tas d'autres artistes.
C'est très bien, c'est la gloire.
C'est la gloire. Et donc, ce film est un travelling du monde intérieur du poète où apparaissent, tels des fantômes, quelques fragments de son répertoire théâtral et cinématographique. Donc, ce film explore le passé, le présent et le futur.
Très bien, c'est très bien. Je voudrais revenir un peu, si vous permettez, vers le passé, puisque vous en parlez, avec une lettre du philosophe allemand, puisque vous parliez des relations franco-allemandes, avec le philosophe Nietzsche, qui connaissait très bien la région, justement. Et donc, dans ses lettres méditerranéennes, il déclare un véritable amour à la Méditerranée. et ça peut paraître curieux venant de là-haut, de Prusse.
Oui.
Et il va vraiment s'enticher de la Méditerranée, Menton, Gênes, Nice, Cannes. Et il va décrire tout ça avec un vrai bonheur. Et ça va très bien. Je pense que Cocteau, et vous-même bien sûr, mesdames, auraient apprécié ce que ce philosophe disait. La fatigue d'une nuit de travail ne m'a nullement perturbé la prodigieuse impression qu'a faite sur ma sensibilité ce tout premier contact avec la Méditerranée. Ma découverte de Menton restera à tout jamais gravée dans ma mémoire. Un de mes amis, Paul Rey, philosophe, m'avait souvent parlé de la magie de l'automne méditerranéen, mais ce que je découvre va bien au-delà de ces descriptions. Le soleil transmet sa douceur à la mer. D'un bleu pâle, parfois irisé de nuances violettes, le ciel se confond avec les flots, bien avant la ligne d'horizon. La lecture d'Homère avait associé dans ma mémoire la Méditerranée à des couleurs agressives, alors que s'étale sous mes yeux étonnés une nature colorée des nuances les plus délicates. Avec le printemps et plus encore au cœur de l'été, la violence des tons doit sans doute reprendre le dessus. Que la Méditerranée puisse varier à ce point ses mises en scène me comble de joie. 1876. On a une véritable, peu connue déclaration d'amour.
À la Méditerranée.
Il se trouve là, il se trouve sur le rocher d'Aize, E-Z-E. Et il y a le fameux chemin, toujours du philosophe, et on monte les différentes stations qu'il montait. C'est là qu'il s'arrêtait pour travailler ses plans de philosophie. Et après avoir passé la journée à contempler la Méditerranée, il travaillait 2-3 jours, 5 ou 6 chapitres d'une traite. La Méditerranée l'avait imbibé, si on peut dire, et vraiment l'avait inspiré. Voilà. C'est une ode, une déclaration d'amour qui rejoint celle, quand même aussi, de Jean Cocteau.
Jean Cocteau, oui. Et la Méditerranée.
Les Méditerranées. Pour finir, qu'est-ce que vous, comme conclusion, que peut-on dire encore du méditerranéen, que Cocteau est encore la ville la...
Ben, Cocteau est très présent à Menton.
Voilà, c'est la ville Cocteau,
en somme. C'est la ville Cocteau, avec ses deux musées magnifiques. Parce que autant le Bastion, c'est un musée ancien où il y a beaucoup de charme.
Oui.
Et autrement, ce très beau musée contemporain qui est absolument magnifique.
Moi, j'aime
bien
la phrase.
Qui ressemble à une pieuvre blanche.
Moi, j'aime bien la phrase qui dit, à la fin d'Orphée, l'homme est sauvé, la mort meurt, et le mythe de l'immortalité. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est tout à fait Cocteau,
l'immortalité.
Tout à fait ça.
D'ailleurs, il disait toujours, un chef-d'œuvre est une bataille gagnée contre la mort.
C'est ça.
N'est-ce pas ? C'est magnifique. Oui.
Ça, c'est à apprendre par cœur. C'est
déjà
fait.
Ah oui, il faut le savoir parfaitement.
Et puis aussi, je reste avec vous. C'est ce qu'on trouve sur sa sépulture, je crois.
Oui. On trouve un petit peu partout. Sur la plaque aussi du Bastion, il y a une plaque aussi, je reste avec vous. Oui. Et Amélie Laforêt, sur sa tombe, je reste avec vous.
Donc,
il est toujours très présent.
Il est toujours présent malgré les années. Il est devenu classique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a résisté à l'épreuve du temps, si on peut dire.
Voilà.
C'est ça. Et puis Gilbert Bécaud, et nous terminerons par un hommage à Cocteau, à Bécaud. Gilbert Bécaud, disait Jean Cocteau, Gilbert Bécaud a le courage d'être excessif, ce que peu de gens osent. Et de se montrer tel qu'il est jusqu'au bout.
Alors moi, je vais citer une phrase, surtout pour Dan,
oui.
Que Cocteau disait. J'aime les chats parce que j'aime ma maison et qu'ils deviennent peu à peu l'âme invisible. Une sorte de source aux ordres, aux appels, parce qu'en fait, les chats n'écoutent rien du tout. Donc, c'est pas possible. Donc, ils paraissent sourds aux ordres, aux appels et aux reproches.
Je ne connaissais pas, c'est très bien.
Vous connaissez bien les chats.
On peut le réentendre pour le chat, alors.
J'aime les chats parce que j'aime ma maison et qu'ils en deviennent peu à peu l'âme invisible. Une sorte de silence active émane de ces quelques fourrures qui paraissent sourdes aux ordres, aux appels et aux reproches.
Merci pour les chats. C'est une très belle phrase.
Michel. Et maintenant, on écoute...
Merci à Jimmy et à la technique.
On écoute Gilbert Bécaud.
Et nous revenons avec Gilbert Bécaud et Jean Cocteau. Merci, au revoir.
Merci.
Quand il est mort, le poète.
Quand il est mort, le poète.
Tous ses amis pleurent.
Dans ce grand champ des...